Bonjour Alain Marceau.
Bonjour monsieur.
On a appris avant-hier la mort de l'un des deux otages français détenus au Sahel, Gilberto Rodriguez Leal. 3 jours donc après la libération des 4 journalistes détenus en Syrie depuis 10 mois. Y a-t-il selon vous un rapport entre ces deux événements ?
Oui, sans doute, on peut considérer, hélas, que l'otage était décédé depuis plusieurs semaines, sinon depuis plusieurs mois, et on peut penser que le groupe qui a déclaré ce décès a voulu finalement réagir au succès que pouvait être considéré la libération de nos otages en Syrie. C'était, on vous en a libéré, mais voilà, nous en avons qui est décédé. Alors, c'est un peu la riposte de ce groupe djihadiste.
Le gouvernement a réaffirmé, en ce qui concerne la libération des 4 journalistes, sa position officielle. La France ne paye pas de rançon. Selon vous, pourtant, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a eu une contrepartie.
Pour des raisons évidentes, d'abord parce qu'on a quelques éléments d'information, mais surtout inutile de vous dire que ce type de groupe ne va pas se livrer à des opérations d'arrestation, séquestration, pendant plusieurs mois, qui entraînent des frais d'une certaine manière, tout simplement pour les rendre en bon état, en bonne santé, en disant coucou, on s'est trompé. Non, il y a
vous
toujours...
dites que vous avez quelques informations qui permettraient de valider cette thèse.
Oui, parce que dans le cadre de ma mission, il m'arrive de rencontrer les responsables de services de renseignement étrangers sur la zone, et j'ai bien compris qu'ils étaient à la manœuvre, et donc vraisemblablement qu'ils étaient là aussi pour payer. J'ai appelé improprement sans doute le système du tiers payant comme dans la sécurité sociale. C'est vrai, la France ne paye pas, mais c'est quelqu'un qui paye à la place. Dans certaines affaires d'enlèvement en Afrique, on a vu que c'était les compagnies d'assurance des compagnies privées. Pour vous donner une autre idée, lorsqu'on a enlevé notre prêtre au Cameroun, eh bien c'est Monsieur Biya, le président Biya camerounais, qui sur sa cassette personnelle a payé la rançon. D'ailleurs, pour la petite histoire, celle-ci a été détournée en partie par le chef de la police, qui est maintenant en prison.
Est-ce que ça signifie, à contrario, lorsqu'une prise d'otage s'éternise, je pense par exemple à Serge Lazarevitch, qui est au Mali et qui a été enlevé le 24 novembre 2011, qui a été enlevé au Mali en tout cas, est-ce que ça signifie donc que dans ces cas-là, qu'aucun accord n'est trouvé sur les contreparties?
Ça peut avoir aussi une autre signification. C'est la difficulté d'entrer en contact avec les rapteurs, avec les preneurs d'otages, et d'engager la discussion. Et par quel moyen l'engager? C'est aussi ça, la difficulté. Et effectivement, sur le Sahel, c'est sans doute peut-être plus compliqué qu'en Syrie, où les choses sont, comment dirais-je, plus construites, j'allais dire.
Oui. Alors, le ministre de l'Intérieur a présenté hier en Conseil des ministres un plan de lutte contre les filières djihadistes en France, quelques jours après la libération des 4 journalistes. On a appris que certains de leurs ravisseurs parlaient français. Parmi les mesures annoncées, il y a la possibilité de confisquer le passeport ou de geler les avoirs dès les premiers soupçons d'un départ, d'aider les familles à déceler la radicalisation, grâce notamment à la mise en place d'un numéro de téléphone spécial, de rétablir l'autorisation de sortie du territoire et de renforcer la surveillance sur Internet. Est-ce que cet ensemble de mesures est un arsenal suffisant?
Non, je ne pense pas que ce soit à la hauteur du phénomène. Je vous rappelle que le ministre des Affaires étrangères en personne a eu l'occasion de dire il y a quelques jours que nous étions en présence d'une menace sans précédent en ce siècle, cette menace terroriste nouvelle consistant à avoir finalement en Syrie aujourd'hui l'équivalent d'un régiment, 700 personnes, 500 ou 700 personnes, c'est l'équivalent d'un régiment de djihadistes français. Et donc répondre par ces mesures, comment dirais-je, de prévention du ministre de l'Intérieur, je ne doute pas qu'il soit de bonne foi là-dedans, mais on pourrait penser à la limite qui s'adresse à des juges des enfants. C'est un peu, c'est considérer ces jeunes gens comme des bisounours. C'est pas tout à fait ça la réalité. Les 700 qui sont là-bas, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils rentrent, ou ils vont vouloir rentrer, s'ils sont pas tués, ou s'ils n'ont pas d'autres projets djihadistes. Et là, il y a strictement aucune réponse dans ces propositions. Le problème, c'est le retour de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis adressé au mois de novembre à la garde des Sceaux, en lui expliquant que notre législation antiterroriste était totalement inadaptée pour poursuivre ces gens-là. Parce qu'au fond, ces djihadistes qui sont là-bas, on peut considérer qu'ils sont les, entre guillemets, les collaborateurs occasionnels de la diplomatie française, puisqu'ils poursuivent le même but, ils combattent Assad, comme le fait la diplomatie française. Et donc, il n'est pas possible de les poursuivre pour association de malfaiteurs en l'état du droit français, à la différence de ce que nous faisions lorsque les djihadistes allaient porter le feu en Afghanistan.
Où là pourtant, avant-hier soir, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a dit que les Français qui reviennent de Syrie pouvaient être poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Eh bien, écoutez,
donc il se trompe sur le plan du droit.
Ah, je pense qu'effectivement, mais nous verrons, le parquet pourra toujours engager des poursuites. Il faudra voir effectivement si les juges, qu'ils soient juges d'instruction ou juges du tribunal correctionnel, éventuellement de la cour d'assises, retiendront qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs terroristes, dans la mesure où ces gens-là, finalement, étaient engagés dans le même processus diplomatique, enfin, leur étaient guerriers dans le même processus diplomatique que nous. La garde des Sceaux m'a répondu effectivement sur la ligne qu'a utilisé le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'elle se trompe en droit. Et je pense qu'effectivement, on pourrait demander au Parlement de faire en sorte d'avoir une loi efficace et spécifique pour cette affaire djihadiste.
Quand vous dites que ces jeunes djihadistes sont des, vous avez employé l'expression, collaborateurs occasionnels de la France en poursuivant de manière guerrière, mais la même politique, ce sont des propos tout de même assez lourds. Est-ce qu'au fond, vous sous-entendez que la France n'aurait peut-être pas tout fait pour décourager ce genre d'initiative?
Ah, non seulement on n'a pas tout fait pour encourager ces initiatives, mais
pour décourager.
Mais dans un premier temps, finalement, je crois que ça se faisait à la satisfaction de beaucoup de gens, notamment du Quai d'Orsay, qui disaient, ben, nous voilà très engagés dans le processus anti-Assad. Effectivement, monsieur Assad n'est pas quelqu'un de défendable. C'est effectivement un criminel, c'est un boucher, c'est un dictateur, tout ce que l'on voudra. Mais je pense que dans un premier temps, on a dû même encourager ces jeunes gens à partir. On savait que certains partaient, on se disait, bon, après tout, ils vont faire la guerre contre Assad, ça nous arrange bien. Et j'espère qu'on ne découvrira pas, à terme, que ces gens-là ont été plus qu'encouragés, voire qu'il y a eu des opérations de manipulation pour les y envoyer. Je ne parle pas des 500, hein, mais je parle de quelques-uns,
peut-être les plus expérimentés. Faciliter, éventuellement?
Faciliter, sans doute, peut-être même donner les moyens.
Mais vous avez des informations qui
permettent
de penser
ça? Non, je n'ai pas d'informations particulières.
C'est une intime conviction?
C'est plutôt une conviction qui n'est pas seulement intime, parce qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé hier la constitution d'une mission d'information, une commission d'enquête parlementaire, afin de vérifier les conditions dans lesquelles tout ça se passe, et surtout comment on va faire pour les accueillir à leur retour, et faire en sorte qu'on ait une législation adaptée. C'est un vrai sujet. On n'a jamais eu à faire face à une telle menace terroriste, même si, non, imaginez que parmi les retours, on n'est que 4 ou 5 méras, j'allais dire. Est-ce que vous imaginez ce que c'est de nature à produire sur le territoire national en termes de sécurité ou plutôt d'insécurité?
Est-ce qu'on connaît vraiment l'ampleur du phénomène aujourd'hui? C'est-à-dire combien y a-t-il de candidats au départ pour le djihad en France?
Candidats au départ, vous savez, il fut une époque, dans ma génération, à cet âge-là, on partait à Katmandou. C'était moins dangereux.
Moins violent.
Même si effectivement, on pouvait trouver le chemin de la drogue là-dessus. Maintenant, c'est aussi une forme de désespérance qui fait que des gars qui sont pas forcément musulmans, d'ailleurs, partent là-bas sur le chemin de « on va faire le djihad ». On a des parents qui viennent témoigner en disant « c'est terrible, du jour au lendemain il s'est fait pousser la barbe et il est parti ». Des fois, ils se font tuer aussi. Mais ils vont revenir en ayant manié la Kalachnikov, jeté des grenades, appris à torturer, à tuer. C'est pas le meilleur chemin que l'on puisse utiliser pour rentrer dans la vie active.
Ouais, vous êtes député des Français de l'étranger, la Syrie est dans votre circonscription et vous vous êtes inquiété il y a quelques jours du sort des Français qui vivent en Syrie. La France, avez-vous dit, les a totalement abandonnés? Qu'est-ce que vous voulez dire
par
là?
Du jour au lendemain où on a rompu les relations avec le système Assad, toute l'administration française s'est repliée sur le territoire français, que ce soit nos ambassades, consulats, etc., nos enseignants, et les entreprises, bien sûr, ont fermé et ont rapatrié leurs expats. Et finalement, on se retrouve avec des Français totalement démunis. Pour vous donner une idée, il y a un lycée français à Damas qui fonctionne aujourd'hui avec des bénévoles. Un brave proviseur qui habitait dans le centre de la France est parti là-bas faire proviseur bénévole. Notre lycée français a été bombardé à deux reprises par nos amis djihadistes, n'est-ce pas? Il y a 250 gosses qui sont là et on essaye de le faire vivre. À titre personnel, j'essaye de donner un coup de main, je vais aller les visiter prochainement.
On a l'impression, vous me dites si je me trompe, que à travers vos propos, vous pensez que la France a commis peut-être une erreur stratégique ou diplomatique en étant strictement dans l'anti-Assad.
J'étais pour un non-engagement de la France, ni dans un camp ni dans un autre, parce que je me rendais bien compte que combattre Assad, et il faut combattre Assad, c'était finalement encourager des forces qui nous sont totalement étrangères, qui sont peut-être tout aussi dangereuses, et c'est pas acceptable. J'étais pour une neutralité totale et j'étais plus sur la ligne de la diplomatie russe que sur celle de la diplomatie française.
Merci Alain Marceau, bonne journée.
Bonne journée.